France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 17 octobre, soyez les bienvenus sur France Musique. David Travailleur est à la réalisation, Stéphane Poitevin et Emmanuel Rose à la technique. Bienvenue dans cette émission. Actualité de la musique, écologie, chant choral. Au programme, d'ici 9h, Judith Paquier, cornettiste et co-directrice des Traversées Baroques, partagera en croissant une Madeleine de Proust avec nous. Marc-Olivier Dupin nous parlera de formation musicale, de solfège dans sa chronique Battement de cœur. À 8h15, notre reportage, Sofia Anastasio nous emmènera en forêt amazonienne, vaste étendue verdoyante célébrée à l'Opéra de Rouen. À 8h30, notre invitée sera la soprano et chef d'orchestre Barbara Nigan. Elle viendra nous parler de sa formidable initiative Momentum, qui aide les jeunes artistes en cette période difficile. Et puis à 8h50, Christophe Chassol nous fera entendre des chants d'oiseaux, avec quelques extraits du catalogue des oiseaux d'Olivier Messiaen, mais aussi des harmonisations à lui. Que de bonnes raisons donc de vous lever avec nous sur France Musique. Le moment musical en fa mineur, Deutsch 780 numéro 3 de Franz Schubert, interprété ici par Anne Kefelek, la pianiste Anne Kefelek qui sera à l'affiche du festival Pianoctambule, dont le coup d'envoi sera donné tout à l'heure à 15h à l'école d'art et de design du Mans. Piano Noctambule, 24 heures de performance durant lesquelles pianistes, musicologues, accordeurs se relaieront pour vous faire découvrir les sonates pour piano de Beethoven, Anne Kefelek, mais aussi Olga Pachenko, Marussia Jantet et Eduardo Torbianelli seront de la partie. 24 heures de musique donc, et pendant la nuit, des matelas seront même installés autour des pianos pour que vous puissiez goûter à l'événement en toute tranquillité. Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 15h à l'école d'art et de design du Mans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le www.pianoctambule.com. Beethoven, dont nous célébrons, vous le savez certainement, vous l'avez entendu, cette année, le 250e anniversaire de la naissance. Eh bien, le voici justement à notre programme ce matin, sur le troisième disque que le jeune violoniste Daniel Lozakovic, 19 ans, fait paraître chez Deutsche Grammophon. Daniel qui rêvait depuis l'âge de 8 ans d'enregistrer l'unique concerto pour violon du compositeur. Il l'a joué pour la toute première fois sur scène à l'âge de 13 ans. Il avait 15 ans quand le chef Valéry Gergiev l'a invité à le jouer à Moscou. Les musiciens se retrouvent donc, ils se sont retrouvés il y a quelques mois pour l'enregistrer avec l'Orchestre Philharmonique de Munich. En voici un extrait.
Thank you.
Daniel Lozakovitch, ici accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Munich, Valérie Gergiev à la direction. C'était le deuxième mouvement du concerto pour violon et orchestre de Beethoven. On retrouve donc sur ce nouveau disque qui paraît chez Deutsche Grammophon. Il est 7h43. Et c'est l'heure du choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner. Bonjour Judith Paquier.
Bonjour Saskia.
Vous êtes cornettiste, co-directrice des Traversées Baroques. Alors, lorsque nous avons parlé ensemble de l'organisation de cette séquence, nous souhaitions mettre en avant la 9e édition du Festival des Traversées Baroques qui se tiendra demain dans divers lieux à Dijon. Musique en ville à Dijon, c'est le titre de ce festival. Mais force est de constater que le public est au rendez-vous, Judith, car tous les concerts sont complets. Ça réchauffe le cœur, non, en cette période morose?
Ah oui, alors ça réchauffe carrément le cœur, c'est vrai, parce que c'est notre pire crainte, c'est que le public ne soit pas au rendez-vous. Et il se trouve effectivement que sur les 4 concerts de demain, toutes les jauges sont pleines, les jauges sont petites évidemment, mais tout est rempli. Et on a quelques personnes en liste d'attente, donc on est bien content de cette situation évidemment.
Évidemment, parce que situation peu facile, on le sait. En tant qu'artiste, Judith, comment avez-vous réagi aux dernières annonces des autorités publiques à l'instauration de ce couvre-feu? Êtes-vous impactée?
Alors nous, pour le moment, non, puisque là, tous les prochains concerts et toutes les manifestations qu'on va organiser, ce sera plutôt vers Dijon et dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais je vois quand même venir, bon, évidemment, l'énorme souci pour tous les ensembles, pour toutes les salles et puis pour tous les festivals qui sont dans les endroits où ce couvre-feu est imposé, on va dire. Et l'énorme souci, c'est que évidemment, ça risque d'impacter bien sûr plein d'artistes qui ne sont pas dans ces régions-là, mais qui viennent faire les concerts à ces endroits-là. Et c'est vrai que du coup, ça tend à nouveau la situation, alors même que justement, on est en train de lutter pour retrouver nos publics, pour refaire tout ce travail avec les publics et pour tout reconstruire.
Et puis, il faut aussi jongler avec les annulations de dernière minute pour cause de cas Covid qui sont récurrentes pour le moment.
Voilà, et c'est vrai que, en fait, là, moi, je disais qu'on est très très content que Musique en Ville puisse se tenir demain, mais il faut savoir que la semaine dernière, on a déjà changé 3 lieux, les jauges ont diminué, il peut aussi y avoir eu, parfois, bah, effectivement, des musiciens qui pensaient être qu'à contact, donc en fait, jusqu'au dernier moment, on peut dire que, voilà, ça peut encore s'annuler d'ici à demain, je pense que ce ne sera pas le cas, mais c'est vraiment, en fait, on va dire, un combat de tous les jours d'arriver à maintenir les choses, que ce soit pour nous d'ailleurs ou pour tous ceux qui en ce moment ont le courage et la volonté de maintenir tout simplement des concerts et d'y aller, quoi, on va dire.
Et puis c'est une preuve supplémentaire, une nouvelle fois, que les artistes ont une magnifique faculté d'adaptation dans des circonstances très particulières, très compliquées aussi. Mais allez, parlons de choses réjouissantes, Judith Paquier, des Traversées Baroques qui jouent de la musique baroque, mais pas que. Moi j'aimerais qu'on parle ce matin de ces ciné-concerts que vous proposez en Bourgogne, Franche-Comté, justement. Vous nous en dites quelques mots?
Oui, bien sûr. Alors, on a la chance, donc, je co-dirige les Traversées Baroques avec Étienne Meyer, qui est donc le chef quand on est en grand effectif. Et puis, également, en fait, il a un grand talent, Étienne, c'est qu'il écrit de la musique à l'image depuis des années. Et donc, il a concocté des ciné-concerts pour les musiciens des Traversées Baroques. Donc, il écrit dans un langage, on va dire, actuel, mais avec les timbres des instruments anciens, comme le cornet à bouquin, la viole de gambe, et puis parfois aussi les mélanges avec d'autres instruments un peu plus récents. Toute une série de ciné-concerts pour enfants, et c'est ce qu'on va faire entre octobre, novembre et décembre, là, sur toute la Bourgogne-Franche-Comté.
Effectivement, il y a des dates à retrouver sur le site des Traversées Baroques. Vous pouvez, chers éditeurs, retrouver le lien sur la page Musique Matin de cette émission sur francemusique.fr. Prochaine date pour ce ciné-concert pour enfants, donc ce sera les 12 et 13 novembre à l'auditorium du Conservatoire du Grand Chalon à Chalon-sur-Saône. Judith Paquier, on est tout de même là ce matin pour partager un choix musical. Vous nous le présentez, ce merveilleux lamento que nous avez choisi pour nous.
Alors oui, en fait, le coup de cœur a été sur ce lamento, justement. En fait, c'est un coup de cœur qu'on a eu avec Étienne quand on a lu. Très souvent, on se met au piano et puis on lit de la musique pour les projets futurs. Et on cherchait un projet original de musique peu connue, mais qui pourrait plaire au plus grand nombre, et puis surtout pour aussi pouvoir faire des concerts avec et des concerts mis en espace. Donc il y avait beaucoup de contraintes, on va dire, dans l'offre recherchée. Et puis, donc on a lu beaucoup de partitions. Et au milieu de cette œuvre du Sicilien Bonaventura Aliotti, Le Triomphe de la Mort, on est tombé sur ce lamento qui est absolument sublime. C'est en fait, ce Triomphe de la Mort, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Et donc, Ève passe son temps à vouloir faire croquer la pomme à Adam. Et ce lamento, c'est justement un des plus beaux passages de cet oratorio, puisque c'est Ève qui supplie Adam de toutes ses forces de croquer dans cette pomme, et après il ne pourra plus résister.
Merci beaucoup Judith Paquier, on l'écoute tout de suite, à très bientôt sur France Musique. Magnifique lamento extrait de cet oratorio, le triomphe de la mort de Bonaventura Aliotti, interprété ici par Capucine Keller. Les traversées baroques, Étienne Meyer, c'était le choix musical de Judith Paquier. Et je vous offre ce matin un disque, le dernier album en date de la violoniste Marina Chiche, qui est violoniste, mais également productrice de l'émission Vous avez dit classique Chiche, chaque dimanche à 14h sur France Musique. Sur cet album, elle présente en compagnie du pianiste Aurélien Pontier pour le label Nomad Music, un programme hommage aux grands violonistes Fritz Kreisler et Yascha Heifetz. Pour remporter ce disque, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur Contactez-nous et vous nous laissez vos coordonnées complètes et puis la bonne réponse à la question qui va suivre. Vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Alors ce matin, je teste votre niveau d'allemand et je vous demande de traduire le titre de la pièce qui est à suivre. Liebeslied, cela veut-il dire chanson d'amour, la Marseillaise ou alors ne me quitte pas. Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Thank you. Liebeslied de Fritz Kreisler, interprété ici par Marina Schisch et Aurélien Pontier, extrait de ce disque paru chez Nomad Music, a remporté ce matin. Il faut pour cela deviner la traduction de Liebeslied, chanson d'amour, la Marseillaise ou alors ne me quitte pas. Rendez-vous sur francemusique.fr pour participer.
Deux concerts exceptionnels de l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec la violoniste Patricia Kopaczynskaya. Les 22 et 30 octobre à l'Auditorium de Radio France. Laissez-vous emporter par la virtuosité des deux grands concertos pour violon de Béla Bartók et de deux grandes pages pour orchestre, la Symphonie de Franck et la Symphonie Fantastique de Berlioz, sous la direction de Mikko Franck. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
France Musique.
Vous allez là, do, ré.
Vous allez l'adorer.
France Musique, il est 8h. C'est l'heure de la chronique Battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Et aujourd'hui nous parlons d'un sujet en lien avec la pratique vocale, les débuts de l'apprentissage musical de l'enfant. Alors selon vous, un enfant doit-il commencer la musique par la formation musicale ou le solfège avant de faire de l'instrument ?
Non, certes pas. La formation musicale ou le solfège ne peuvent être, pour moi, le point d'entrée des débuts de l'enfant à la pratique musicale. La première approche doit être corporelle et sensorielle, par le chant, la danse ou l'instrument. Le corps, le mouvement et la respiration sont les premiers ingrédients de la pratique musicale. Pour prendre une comparaison avec l'acquisition du langage, l'enfant apprend à parler avant d'apprendre la grammaire.
Alors pourquoi dans les conservatoires, la formation musicale est-elle obligatoire avant les débuts de l'instrument ?
Alors souvent, dans les conservatoires, la formation musicale préalable à une pratique instrumentale n'est qu'essentiellement un espace d'attente avant de pouvoir commencer le chant ou l'instrument.
Quelle est la différence entre le solfège et la formation musicale ?
Vaste sujet, ça c'est qu'il y a. En principe, il y a des objectifs communs, notamment l'acquisition de différentes techniques pour créer un lien entre le son et le signe. Autrement dit, amener à lire, écrire la musique en développant l'audition intérieure de ce qu'on lit ou que l'on écrit. Un peu comme pour le langage. On comprend ce qu'on lit quand on lit, j'espère en tout cas. Alors ces techniques ont notamment pour objectif de faciliter le déchiffrage, c'est-à-dire lire à première vue, pour un chanteur ou un instrumentiste. Alors, les différences, elles tiennent à la méthode d'apprentissage et à l'organisation des études.
Et les méthodes sont-elles si différentes ?
Oui, en solfège, la méthode est fondée à la fois sur la dissociation et le travail de synthèse. Alors, la dissociation, c'est par exemple la lecture de notes, la lecture de rythme, la connaissance sensorielle des intervalles et la théorie. Et la synthèse, on la retrouve avec la lecture chantée et la dictée musicale. On va entendre un exemple de travail dissocié sur le rythme, pris dans la musique, avec Clapping Music de Steve Reich, avec les percussionnistes de Radio France. Voilà une sorte de canon rythmique qui est très ludique et qui est pas si facile que ça à réaliser, mais qui est une façon de dissocier le travail rythmique. Alors la formation musicale, elle, préconise un travail plus en lien direct avec les œuvres musicales, autant que faire se peut.
Et l'organisation des études ?
Alors, historiquement, dans la tradition française du Conservatoire de Paris, le solfège était jadis obligatoire pour les futurs professionnels et était limité dans le temps. Quelques années, autour de 3 ou 4 années d'études pour les enfants doués à l'âge de la préadolescence. Aujourd'hui, dans le système actuel des conservatoires, les enfants non professionnels sont susceptibles de suivre des cours de formation musicale pendant 10 années.
Et à l'étranger, Marc-Olivier ?
Alors, à l'étranger, c'est souvent le chant choral qui est le point d'entrée de la pratique musicale. Et le professeur d'instrument prend en charge une partie de l'enseignement solfégique au fil des progrès de l'élève et de sa découverte des répertoires de plus en plus élaborés.
Donc vous semblez résolument contre la formation musicale telle qu'elle est actuellement enseignée ?
Oui, tout à fait contre. Pour moi, les études sont trop longues, trop peu efficaces, les professeurs trop peu formés à la pratique vocale et chorale, et les élèves trop rarement dans le plaisir. Pour moi, une vraie réforme est à entreprendre.
Merci beaucoup Marc-Olivier pour cette chronique qui est à réécouter sur francemusique.fr et qui fera débat, j'en suis sûre, sur les réseaux sociaux.
Certainement.
On l'espère en tout cas. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, bien évidemment. Je
à la semaine
une
prochaine,
très
Saskia.
Belle journée Marc-Olivier.
Merci, vous aussi. Thank you.
La sonate, une sonate de Daniel Purcell, cousin de Henri Purcell, il s'en est d'ailleurs grandement inspiré. C'était un extrait du prochain disque du duo formé par le violoniste Théotime Langlois de Swart et le luthiste Thomas Dunford, chez Harmonia Mundi. Un violon, un luth et de la musique anglaise du XVIIe siècle, une savoureuse avant-première, rien que pour vous ce matin, car le disque sortira le 20 novembre prochain, en partenariat avec France Musique, et on en reparlera bien évidemment. Théotime Langlois de Swart, violoniste qui faisait d'ailleurs partie des révélations des victoires de la musique classique l'an dernier, victoires qui reviennent comme chaque année, et qui s'ouvrent en amont au public. Un collège de 50 votants du public va être constitué dans les jours qui viennent. Si vous souhaitez faire partie de ce jury, il faut faire acte de candidature. Le formulaire de participation est disponible sur le site francemusique.fr jusqu'au 5 novembre à minuit. Cumba amazonienne par le groupe péruvien Los Mirlos, la danza de los Mirlos, la danse des Mirlos, cumbia des petits oiseaux, des oiseaux, nous en entendrons aussi à 8h50 avec Christophe Chassot qui nous fera entendre quelques extraits du catalogue des oiseaux d'Olivier Messiaen, mais aussi des harmonisations à lui dans sa chronique. Mais tout de suite, eh bien, c'est une immersion en forêt amazonienne qui nous attend. Et ce soir, effectivement, la forêt amazonienne sera célébrée à l'Opéra de Rouen avec un programme musique et images. Ce concert mêlera aux photographies de Sebastião Salgado, la musique d'Hector Villa-Lobos, A Floresta do Amazonas, interprétée par les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Rouen en Normandie et l'orchestre régional de Normandie.
Sur la... la scène de l'opéra de Rouen, les musiciens et la soprano Camila Tittinger font vivre la forêt amazonienne en interprétant A Floresta do Amazonas, une partition en 11 mouvements de Villa-Lobos que la chef Simone Menezes affectionne particulièrement.
C'est une musique extraordinaire. Quand on imagine un compositeur latin, dans notre vision un peu eurocentrique, on a l'impression que c'est toujours la musique joyeuse. Mais ce n'est pas le cas de Villa-Lobos, surtout dans cette musique. C'est une musique d'une mélancolie, d'une nostalgie très profonde. Et en même temps qu'il y a cette nostalgie, il utilise toute cette onomatopée des bruits de forêt, de voix qui parfois fait des bruits d'oiseaux. Et donc je pense que ça nous aide à rentrer vraiment dans l'esprit de la forêt.
Cette œuvre est en effet une ode à la beauté, à la grandeur, à la puissance du poumon de la terre, patrimoine cher à la soprano brésilienne Camila Tittinger.
C'est en quelque sorte notre trésor, mais même en tant que Brésiliens, nous ne connaissons pas tous les mystères de cette forêt incroyable. Et je ressens vraiment ce que Villa-Lobos a voulu offrir au monde quand il a écrit cette œuvre. Je vois les animaux, j'entends les bruits. Si je ferme les yeux, je ressens la vraie forêt amazonienne que nous avons.
Aux notes se mêlent les célèbres photographies en noir et blanc de l'artiste Sebastião Salgado qui sont projetées sur scène au-dessus des musiciens. Paysages de la forêt, visages, scènes de vie parmi les peuples indigènes du Brésil, elles répondent parfaitement à la musique.
Ça nous aide à vraiment plonger dans l'univers de la forêt, je pense. Il a essayé de choisir les images qui conviennent avec la musique. Par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle L'oiseau de la forêt. Et là, il a décidé de mettre des images des femmes. Et après, il y a un mouvement qui s'appelle les guerres entre les indigènes. Et il a mis des mouvements de guerre. Donc, on essaye de créer cette ambiance d'immersion par ce projet.
Avec cette suite, dont le premier mouvement s'appelle « Le feu dans la forêt », difficile de ne pas penser aux graves dangers qui pèsent aujourd'hui sur ce patrimoine écologique menacé qui abrite 10% de la biodiversité mondiale.
Ce que je ressens, ce que je désire, mon espoir en quelque sorte, quand je chante cela, c'est que l'art puisse changer les mauvais comportements de l'être humain avec la nature. Je pense que c'est le pouvoir de l'art et de la musique. Nous pouvons changer le monde, les gens. Je pense vraiment à ça lorsque j'entends cette musique et que je la chante.
La première, c'est ce soir à l'Opéra de Rouen. La représentation commence à 18h. Elle peut donc se tenir malgré le couvre-feu qui s'applique à la ville. L'Opéra communiquera très prochainement l'adaptation de sa programmation face aux nouvelles mesures annoncées par le président mercredi dernier.
Et cette production sera également présentée le 10 avril 2021 à la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup Sophie Anastasio pour ce reportage.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique. Thank you.
Leif Ove Hansnes ici au piano pour cette pièce lyrique d'Edvard Grieg, Jour de noces à Trolldagen. Un petit mot sur ce concert initialement prévu ce soir à 20h à la Maison de la Radio. Malheureusement, suite à la déclaration de quelques cas de Covid-19 au sein du chœur de Radio France, cette représentation se fera sans la participation du chœur. Le Requiem allemand de Brahms, initialement programmé, sera donc remplacé par la 3e symphonie du compositeur ainsi que des airs de concert de Beethoven et de Mendelssohn. John Elliott Gardiner sera bien présent à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et par ailleurs, suite à l'instauration d'un couvre-feu en Ile-de-France, l'heure de la représentation est également modifiée. Les musiciens vous donnent rendez-vous à 18h30 à la Maison de la Radio. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre, sachez que ce soir sur France Musique, c'est une soirée entière consacrée à Frédéric Lodéon qui vous sera proposée. Une célébration de sa carrière radiophonique en présence de ses amis musiciens. Jean-Philippe Collard, Jérôme Pernaud, Jérôme Ducrot, Nicolas Dautricourt, Claire Désert ou encore la violoncelliste Anastasia Kobekina répondront présents. Rendez-vous donc dès ce soir, 20h, sur nos ondes.
Thank you.
la violoncelliste Anastasia Kobekina, accompagnée ici par Anna Fedorova au piano pour ce Pezzo Capriccioso en si mineur opus 62 de Tchaïkovski. Anastasia Kobekina qui sera donc présente parmi les invités de Frédéric Ledéon ce soir dès 20h sur France Musique. Il est 8h33, l'heure d'accueillir notre invité.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et parmi les belles initiatives lancées en réponse aux ravages que la pandémie a créés dans le secteur de la musique classique, il y a Momentum, qui a vu le jour en août dernier grâce à notre invitée ce matin, la soprano et chef d'orchestre, Barbara Nigan. Bonjour Barbara.
Bonjour Saskia.
Momentum, c'est quoi? C'est un élan, un mouvement?
Oui, c'est un mouvement collectif des artistes que j'ai créé en août en fait. C'est vraiment une réponse aux crises et j'ai parlé avec beaucoup de jeunes artistes dans les derniers 6 mois. Et il m'a dit, nous devons chanter, c'est nécessaire d'être sur scène. Alors j'ai parlé avec mes collègues et j'ai créé Momentum.
Momentum, qui est donc cette initiative que vous nous présentiez, Barbara Nigan, parce qu'il y a aussi cette phrase, hein, Momentum, our future now.
Ouais.
C'est le titre complet de cette initiative. Maintenant, il faut soutenir les jeunes artistes par tous les moyens.
Oui, absolument, parce qu'il y a une possibilité de perdre une génération de nos collègues jeunes. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de places maintenant pour les spectacles, il n'y a pas beaucoup de concerts.
Et donc on privilégie les artistes plus avancés en termes de carrière?
Oui, absolument. Et alors, pour nous, comme moi, comme Renaud Capuçon, comme Nathalie Dessé, comme Sabine Desvier, Alexandre Tarot, qui a les opportunités de faire les concerts maintenant, nous avons le pouvoir d'inviter une jeune artiste professionnelle pour partager le moment. Et aussi, c'est un moment de, c'est pas seulement pour faire 15-10 minutes sur scène, mais aussi c'est une opportunité d'avoir les échanges avec les autres professionnels, de vraiment élargir notre network
et réseau.
Oui, notre réseau, oui, c'est très important.
Et mettre en lumière ces jeunes artistes en début de carrière. Qui choisit les artistes, justement? Qui choisit ces jeunes artistes? D'où viennent-ils, Barbara Nigan?
Oui, en fait, l'artiste, si par exemple, Nathalie Dessé a un concert, c'est à Nathalie de choisir une jeune ou quelques jeunes artistes pour partager la scène.
Non, en l'occurrence, c'est la semaine dernière avec l'ensemble Les Itinérantes.
Oui, absolument. Et parce que nous avons dans notre réseau beaucoup d'opportunités de connaître les jeunes professionnels dans les masterclass ou dans les opéras. Il y a les jeunes qui font les rôles plus moins grandes.
Pas les premiers plans, les
exactement.
Rôles secondaires.
Ouais. Et alors c'est à l'artiste de choisir.
Ce collectif, hein, Momentum, regroupe, on parlait de ces artistes, vous évoquiez ces artistes français, Alexandre Tarot, Sabine Devielle, Nathalie Dessé, mais il y a des artistes internationaux de tous bords. Et quelle liste, Barbara Nigan, c'est vraiment impressionnant. Je pense à Simon Rattle, Daniel Harding, Nicolas Benedetti, Pablo Irascasado, Patricia Kopaczynskaya, Esa-Pekka Salonen, Susanna Melki.
Ouais.
Ils ont tous répondu spontanément présents à votre appel, rapidement.
Oui, moi j'ai fait plus que 40 heures sur le téléphone. Et c'était quelques semaines et beaucoup de conversations et beaucoup des idées. Et le soutien de tous. Daniel Harding m'a donné beaucoup, beaucoup des idées. Aussi, Julien Benamou de l'Opéra Bordeaux était vraiment... il m'aidait beaucoup pour les idées et de former cet collectif. Et oui, c'était aussi un joie de parler avec beaucoup des collègues. Il n'y a pas de temps normalement d'avoir 40 heures sur le téléphone sur quelques semaines. Et c'était vraiment un moment spécial pour galvaniser les énergies, vraiment.
Les berceaux, cette magnifique mélodie qu'on pourrait écouter en boucle, chantée ici par Sabine Devielle et Alexandre Tarot, deux membres de ce collectif Momentum dont nous parlons ce matin, un collectif de musiciens confirmés qui a vu le jour en réponse à la crise qui touche le monde du spectacle et qui souhaite aider les jeunes professionnels en les invitant à partager la scène. Sabine Devielle et Alexandre Tarot inviteront ainsi la mezzo-soprano Alix Lesseau lors du récital qu'ils donneront le 23 novembre prochain à l'Opéra de Bordeaux. Barbara Nigan, vous êtes donc à l'origine de ce mouvement. Parlons de cette période sans précédent. À votre niveau de carrière, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans votre métier, dans votre pratique du chant? On imagine les choses autrement?
Oui, peut-être, oui. Parce qu'une crise, c'est difficile, mais c'est aussi une opportunité pour changer quelque chose. Cet moment, c'était un moment spécial pour moi, pour réfléchir, pour étudier dans une manière différente, pour dormir chaque soir dans la même lit dans notre maison en Bretagne. Et aussi, moi j'ai pensé, qu'est-ce que c'est les projets les plus importants pour moi? Et une des choses qui était toujours dans ma tête est de donner à mes collègues, de donner à mes jeunes collègues professionnels, de donner à la musique, à l'industrie, mais c'est pas une industrie, c'est vraiment une vocation pour moi. J'ai donné beaucoup des masterclass sur l'internet, beaucoup des entretiens avec les jeunes dans les derniers 8 mois.
Et ce soutien va même jusqu'au soutien financier. C'est quand même très étonnant aujourd'hui de se dire que, par exemple, pour ces concerts Momentum, le cachet est divisé entre la salle, l'artiste qui se produit et qui invite le jeune musicien, et l'association Momentum. Ce sont quoi, désormais, les artistes qui vont devoir payer?
Artistes? Oui, c'est les artistes que donner un peu, c'est pas trop, c'est un part de du cachet qui est possible. Alors, par exemple, 500 €. 500 € des artistes, 500 € de l'organisation et 500 € de Momentum. Et moi, j'ai reçu le prix Léonie Sonning de Danemark.
Qui est une récompense de 100 000 €.
Et c'est un cachet qui m'a donné la possibilité de créer Momentum et de soutenir beaucoup des artistes dans les premières années. Et je suis absolument sûre qu'il va être les autres mécènes en futur.
Et que vous allez être rejoint par d'autres personnes qui vont porter le projet à vos côtés.
Absolument.
Barbara Nigan, c'est un projet donc sur du long terme?
Absolument. Ouais, c'est pas seulement, c'était créé parce que nous avons cette crise maintenant, mais c'était une opportunité de créer quelque chose qui est vraiment pour le long term. C'est un long game. Ouais, c'est pour parce que c'est nécessaire toujours d'offrir cet soutien, et aussi pour les jeunes chefs d'orchestre. Par exemple, j'ai créé cette opportunité pour les jeunes chefs d'être sur le podium dans les répétitions et de temps en temps aussi dans les concerts. Et ça, c'est super et c'est rare.
Et effectivement, dans le cadre de Momentum, dans le cadre d'un chef d'orchestre, il peut faire appel à un jeune chef comme assistant pour venir diriger les orchestres pendant les répétitions, et vous le dites parfois sur scène aussi. On parle de chef, de chanteur, alors c'est votre parcours à vous, de chanteuse et de chef d'orchestre, Barbara Nigam. Je pense aussi à cette autre fondation que vous avez, dont vous êtes à l'origine, c'est Equilibrium Young Artist, autre initiative du genre qui accompagne déjà des jeunes chanteurs. Qu'est-ce qui fait la différence peut-être entre les deux?
En fait, la différence, Equilibrium est vraiment associé avec moi et avec mon manière de travailler, discipline, etc.
C'est la seule différence en fait.
Equilibrium est 20 ou 25 jeunes artistes avec moi et avec quelques coachs et les invités comme Nathalie Dessay ou Laurent Nari. Et Momentum, c'est plus large, c'est international et beaucoup, beaucoup des artistes qui vont faire un sort de mentoring et soutien.
Voilà, chacun peut se l'approprier, ce Momentum. Des orchestres, des théâtres, des festivals sont également partenaires de Momentum. Je vais en citer quelques-uns. Le London Symphony Orchestra, Philharmonique de Munich, le Festival de Lucerne, le Wigmore Hall en France, le Festival d'Aix, le Théâtre de l'Athénée, l'Instant Lyrique, le Philharmonique de Radio France, l'Opéra National de Bordeaux, on en parlait. Allez donc faire un tour, si vous souhaitez soutenir aussi, chers auditeurs, cette initiative, www.momentum-now.com. On va mettre évidemment toutes les informations sur le site internet de francemusique.fr. Merci beaucoup Barbara Nigan d'être venue nous parler de Momentum ce matin. À très bientôt donc ici à la Maison de la Radio.
Oui, merci.
Et puis sur les ondes de France Musique, à très bientôt. Oh. Lied d'Alma Mahler, Licht in der Nacht, interprété ici par Barbara Nigan et Reinbert de Leeuw. Barbara Nigan, qui était notre invitée ce matin et qui, je vous le rappelle, est artiste en résidence à la Maison de Radio France. Prochain rendez-vous qu'elle nous donne, ce sera le 8 novembre prochain à 16h au studio 104 pour un concert de musique de chambre avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, au programme Schubert pour les musiciens, et puis avec Barbara Nigan, et bien une œuvre de Sofia Gubaidulina à découvrir. Et puis, autre rendez-vous, ce sera en janvier prochain, le 6 janvier, avec la voix humaine de Francis Poulenc, toujours avec le Philharmonique de Radio France. Plus d'informations sur la résidence de Barbara Nigan sur le site maisondelaradio.fr. Il est 8h50. Et c'est l'heure de la chronique de Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia, c'est la première fois que je suis au masque, c'est un peu difficile.
Au micro, c'est voilà, ouais. Mais c'est comme ça. Vous nous parlez d'oiseaux ce matin.
Oui, de chants d'oiseaux, et puis je vais vous parler de cette vieille histoire entre la science, la nature et puis l'art. Voilà, c'est parti. Bon, les oiseaux, c'est un peu le son de la nature le plus proche de la musique. Donc plein de gens s'y sont frottés. Là, je vais vous parler d'Olivier Messiaen, grand compositeur de la seconde moitié du XXe siècle. Il est né en 1908 et je crois qu'il est mort en 84. Et il a beaucoup, beaucoup travaillé sur le chant des oiseaux. Et je vais vous parler un petit peu de sa façon de travailler. Alors lui, il se rend compte, quoi, il est ornithologue vraiment de cœur, quoi, en fait, et il se rend compte que les ornithologues ont peu de façons d'identifier les oiseaux. Donc ils se servent de la longueur des plumes, la couleur du manteau, la forme du bec ou l'habitat. Et ils sont pas musiciens. Il dit que c'est très dur pour, si on n'est pas musicien, d'identifier un oiseau. Lui, il part dans la campagne, très tôt le matin, il note, il écrit. Il écrit beaucoup, il écrit mal, il dit parfois, parce que les choses sont trop aiguës, trop rapides, où il y a des quarts de ton, et lui, il fait des demi-tons au lieu de faire des quarts de ton, où il y a des trucs qu'il peut pas faire dans les bonnes octaves. Mais voilà, donc il note beaucoup, et il a noté pour faire un seul rouge-gorge, par exemple, donc Olivier Messiaen, hein, il en a noté des centaines. Et il en a fait un seul idéal en fondant les 100 rouges-gorges ensemble. Et il dit qu'il n'est pas un photographe, qu'il est comme un peintre qui peint une impression d'un paysage. Donc c'est une impression des oiseaux. Là, ce que vous entendez, c'est moi qui je joue beaucoup avec les oiseaux. Donc je vous ai amené une petite harmonisation que j'ai faite. Voilà, on écoute. Donc moi je prends le son de l'oiseau. Alors plein de gens font plein de techniques différentes. Hein. La technique vraiment de Messiaen, c'est de noter musicalement, donc papier et crayon, de noter quoi, voilà. Et ensuite de faire rejouer. C'est des transpositions. Donc il les fait jouer sous piano souvent, donc le catalogue des oiseaux. On va écouter Messiaen en train d'en parler et justement de décrire l'ambiance, le son, et on entend le son de l'oiseau et le piano.
Et voici le rossignol. Il éclate tout d'un coup, brusquement. La seconde strophe, ce sont des batteries sur deux sons très célèbres. Tico, 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 tico. Voici le râle de Genet.
À la française.
C'est étrange, ce rythme iambique, brève, longue, que l'on entend dans les hautes herbes de la prairie. C'est lui, il fait...
Bon, ça continue encore, mais je voudrais... Génial. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Et c'est... Bon, alors vraiment, lui, c'est comment lui entend les choses, quoi, en fait. Il peut se tromper. J'aime bien cette idée, en fait, aussi. C'est pas complètement absolu, même si c'est très technique, il y a de la science dure, vraiment. On va écouter Pierre-Laurent Aymar qui joue la rousserolle effarvate, hein, pardon. On écoute. Sur la partition, il y a des choses marquées comme « solennité de la nuit », là, une grenouille, ou là, un bruit dans le marais, une grenouille agite des ossements, enfin, des choses comme ça, voilà, c'est assez drôle, en fait, à regarder la partition. Donc ça, c'est le livre numéro 4 dans le catalogue des oiseaux. Et puis, je vais vous faire, pour finir, je vais vous faire écouter une autre de mes harmonisations à moi. Et genre, j'ai commencé par le piano, ensuite, et je rajoute ensuite le son des oiseaux, et puis de la basse. On écoute. Encore une autre approche, quoi, je veux dire. Do fa 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 ré fa la sol. Et voilà les oiseaux. C'est un rossignol, hein. Et voilà l'entrée de la basse. Oiseau et basse tout seul, tous les deux. Et l'oiseau tout seul. Si, si. Et voilà.
La nature, source inépuisable d'inspiration. Merci beaucoup, Christophe.
Ah,
j'ai adoré. Une chronique à réécouter sur francemusique.fr, bien évidemment, en attendant la prochaine, celle de la semaine prochaine.
Ouais, et je vous ai pas parlé de Vinciane Després, quand même, qui est une philosophe assez géniale, qui parle d'écologie des idées et qui, dans son bouquin, Habiter en oiseau, elle décrit des choses fantastiques sur le territoire chanté des oiseaux et sur comment elle a été bouleversée par le chant d'un merle qui lui se répète tout le temps et qui change à la toute fin de la répétition, comme pour dire une intention, quoi, comme pour dire que quelque chose est important. Et une fois qu'on commence à penser que pour un autre être vivant, quelque chose est important, ben c'est génial. Ça nous donne un grand accès à la nature. Voilà.
Bien voilà, une piste de lecture aussi pour votre week-end, chers auditeurs. Merci Christophe. Et merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Juste avant de nous quitter, un mot de ce concours, résultat du concours. Ce matin, je testais votre niveau d'allemand. Il fallait traduire le titre de la pièce Liebeslied de Fritz Kreisler, pardon. Cela voulait dire tout simplement chanson d'amour. Ça peut être traduit aussi par chagrin d'amour. Voilà, les gagnants seront recontactés, recevront le disque de Marie Nachez dans leur boîte aux lettres. Merci à Marie Ferdinand, David Travailleur, Stéphane Poitvin, Emmanuel Rose.
À réécouter sur francemusique.fr.